Oh, oh, oh.
Ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
Oh, 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 oh.
On a réussi à rendre tous les DM.
Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas vraiment. C'était. Too many
tears. T'as un oublier. Effaceur qui pèque, ton goûter, t'as ton goûter.
Ça, ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est.
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais, hein.
Ah, ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Vannes. Est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
Oh non, écoutez, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue en ce dimanche soir dans la cour d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Nous sommes dimanche soir et vous avez froid dans vos chambres de bonne, vous avez froid dans vos colocations, mais on va se réchauffer ensemble pendant une heure. Vous l'avez entendu, Noël, c'est désormais dans quelques jours. Avec cette émission, on va te faire des cadeaux par milliers pour cette dernière émission de l'année. Ensemble, une heure durant, une fois par mois, les meilleurs programmes de Radio Sorbonne Université, la radio étudiante de la plus vieille fac de France sur la première radio étudiante de la capitale. Et je vous promets plein de choses pour cette émission. Il y aura bien sûr de la culture.
Ouais, tourne ça, je fais le joie.
Et bien sûr également des rumeurs.
Oh, right. Silence is golden.
Du love pour chacun.
Moi je sais par exemple que je m'entends pas du tout avec les scorpions. Tu étais quoi toi déjà?
Scorpion.
Et du style, bien sûr, avant tout du style.
Si vous faites pas les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Marchandise.
Voici nos promesses avec une équipe bien déterre pour vous servir. Allez, de gauche à droite ce soir, nous avons avec nous Pauline. Bonsoir Pauline.
Bonsoir. Bonsoir Thomas. Aujourd'hui, j'interview Florent Jessoupré, directeur d'études chez l'agence Think Out pour les médias et les chaînes de radio.
Excellent. À côté de toi, bonsoir Emma.
Salut Thomas, moi je vais vous parler des premières étudiantes de la Sorbonne.
Les premières étudiantes de la Sorbonne, l'émission du Wokistan est avec nous ce soir. Bonsoir Clémence qui nous rejoint pour la revue de presse féministe. Bonsoir Clémence.
Salut Thomas, moi je vais parler de Katnins, Morandini, Bastien Vivès, bref que du beau monde.
En général c'est Clara à côté de toi qui s'occupe de la revue de presse féministe, mais ce n'est pas le cas ce soir. Bonsoir Clara.
Salut Thomas, alors comme tu le sais, on est allé voir il y a quelques jours les étudiants de la Sorbonne pour les interroger sur l'augmentation du pass Navigo.
Excellent, le pass Navigo, est-ce qu'on est prêt à frauder pour faire face à l'augmentation? On verra ça. À ta gauche, Clara, tu as Abel qui nous a rejoint. Bonsoir Abel.
Bonsoir Thomas, ce soir je vous parle du film biopic sur Simone Veil.
Excellent, et puis pour terminer ce tour de table, Tibor est à ma droite. Bonsoir Tibor.
Bonsoir, ce soir je vais vous parler des Vélib et je vais vous donner 2-3 astuces liées à leur utilisation.
Excellent. On remercie également Sixtine et Rosalia qui ne sont pas avec nous ce soir, mais que vous entendrez dans cette émission. Voilà, tu es ici chez toi, installe-toi, prends place, le décollage est imminent du haut de l'amphi, au fond des chambres de bonne. Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour commencer, eh bien, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien, c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Il reste encore quelques jours pour écrire sa lettre au Père Noël. Oui, et d'ailleurs, ça a longtemps été une femme en France. La fameuse lettre au Père Noël était un programme qui était dans toutes les écoles primaires obligatoire au 19e siècle. On apprenait en effet aux enfants à la rédiger. Le problème, eh bien, c'est que quand ils l'envoyaient cette lettre au Père Noël, ils ne recevaient jamais de réponse. À l'époque, les lettres dont l'adresse était inconnue finissaient à Paris, au dépôt central des rebuts. Et comme rue du Paul ou place du ciel étoilé, eh bien, ça ne disait rien aux postiers, c'était poubelle. Imaginez le désespoir des gamins. Alors si les petits Américains ont eu droit à une réponse officielle dès 1912 grâce à l'opération Santa, comme Santa Claus aux États-Unis, eh bien les petits Français, eux, ne recevaient rien. Et puis surprise, à partir des années 50, certains enfants commencent à avoir des réponses de Papa Noël, enfin précisément de Mama Noël. Puisque sans se concerter, deux femmes, Magdeleine Homo de Veules-les-Roses et Odette Ménager de La Poste de Nueil-sur-Layon dans le Maine-et-Loire, décide que ça suffit. Attristée de voir ses lettres sans réponse, elle décide de se transformer en Mère Noël et de répondre aux lettres des enfants, au risque même de perdre leur emploi, oui, puisqu'en faisant ça, elle rompt le serment de confidentialité des postiers qui les empêche strictement d'ouvrir le courrier. C'est strictement interdit et c'est même donc passible de renvoi. Mais la magie de Noël est plus forte. Alors elles passent leur soirée, leur week-end à répondre à la main. Évidemment, très vite, elles sont submergées. Alors Magdeleine Homo tente un va-tout. Quitte à se faire virer, eh bien tant pis, elle se rend à Paris devant le ministre des PTT pour tout avouer. Ce ministre, Jacques Marette, elle lui demande de l'aide, tout simplement. Et au lieu de la blâmer, eh bien il la félicite et il décide de créer officiellement le secrétariat du Père Noël. Il faut dire qu'il est sensible aux enfants grâce à sa sœur, Françoise Marette. Françoise Marette qui est devenue Dolto en se mariant. Eh oui! C'est d'ailleurs Françoise Dolto qui, en 1962, rédige la toute première lettre modèle que la Poste renvoie aux petits Français. Depuis, c'est 1 200 000 lettres au Père Noël qui sont traitées chaque année à Libourne, en Gironde. Pourquoi là, me demanderez-vous, autour de cette table? Eh bien parce que de 1962 à 1967, le secrétariat est à Paris, mais face à l'afflux de lettres et par manque de place, le ministre des PTT et le ministre du Budget, son ami Robert Boulin, maire de Libourne, offre à la Poste un terrain gratuit. C'est sur le vignoble de Saint-Émilion, conscient que ça va créer des emplois, les petits lutins, puisqu'ils sont aujourd'hui 60 dédiés aux lettres du Père Noël, qui, comme tout le monde le sait, bien sûr, tous les enfants qui nous écoutent, ils habitent en Laponie pour fabriquer les cadeaux. Pour les grands-enfants qui nous écoutent, pas besoin de timbre, juste marqué secrétariat du Père Noël, 33 500 Libourne, ou bien place du ciel étoilé, ça marche aussi. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Clara, la semaine dernière, je t'ai accompagné dans la cour d'honneur de la Sorbonne, recueillir les ressentis des étudiants face à la hausse du pass Navigo.
C'est officiel, dès le 1er janvier 2023, le prix du pass Navigo évolue. Selon le titre, selon le site officiel d'Île-de-France Mobilité, c'était inévitable en raison de l'inflation, des coûts de l'énergie et du remboursement de la dette Covid. Donc pour information, les prix étaient gelés depuis 5 ans. Et cette augmentation concerne l'ensemble des offres liées au pass Navigo, telles que le Navigo annuel en prélèvement mensuel, le Navigo mois, celui de la semaine aussi, et l'Imagine Air, dont le tarif sera modifié à partir de la prochaine rentrée scolaire. Et donc, le pass Imagine Air va passer à 365 euros, le ticket à l'unité à 2,10 euros, et le carnet de 10 tickets à presque 20 euros. Et donc, avec Thomas, on était curieux de savoir ce qu'en pensaient les étudiants et les étudiantes de la Sorbonne. Alors, on s'est rendu dans la cour d'honneur. On leur a posé cette question. Face à l'augmentation du pass Navigo, tu payes ou tu fraudes?
Je pense qu'on peut prendre inspiration sur Chirac, hein, la fameuse photo où justement il passe le portique.
Oui, je vois pas de mal à frauder vu le prix des tarifs.
Malheureusement, 90, ça fait mal. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, les travailleurs, les étudiants encore plus.
Moi, je ne roule qu'un Vélib, donc je n'ai aucune idée d'espace Navigo. Ça fait depuis 7 ans que j'achète pas. Donc.
Ça, j'ai trouvé un autre moyen des transports.
Le Vélib. Non, je veux pas frauder. L'amender assez salé comme ça, ça décourage.
Sauter par-dessus la barrière, etc.
Ouais, vu que je prends le bus, ce serait compliqué aussi pour être fraudé, mais. Par protestation, c'est vrai que ça m'agace un peu.
Personnellement, j'ai aucune gêne à frauder.
J'ai pris une amende récemment, donc je peux pas assumer une nouvelle contravention. Frauder, oui, mais je pense que c'est pas faisable. À moins que ce soit vraiment un mouvement de masse.
Disons que j'en voudrais absolument pas aux gens qui choisiraient de frauder.
On arrive, on ouvre tous les portiques tous ensemble. Bah après, on prend tous des amendes tous ensemble, mais... Même, je trouve que c'est trop chiant de frauder, de passer au-dessus du portique et tout. Quand il y a des gens qui veulent frauder dans la RER, en général, je laisse passer avec moi.
Faut être solidaire.
Alors, vous passez, vous fraudez, vous payez, qu'est-ce que vous faites ?
Clémence ?
Moi, je suis beaucoup trop honnête pour frauder, surtout que maintenant, effectivement, je suis aussi utilisatrice de Vélib depuis septembre et j'ai le pass Navigo Liberté Plus, ce qui me permet d'avoir des super tarifs, donc je pense que je vais avoir droit au ticket à seulement 2 euros. Mais non, moi, évidemment, je suis quand même relativement pour frauder.
Est-ce qu'on a des spécialistes du sautage de tourniquet à la Chirac autour de la table?
J'ai Abel. Longtemps fraudé et longtemps envoyé mes amendes chez un ami à moi.
C'est-à-dire
que si t'as pas ta carte d'identité, et qu'il te suffit juste d'avoir ta carte étudiante. Donc il y a une photo, ton prénom, mais il n'y a pas de, d'adresse. L'adresse, tu l'inventes. Et donc tu peux vivre sur les Champs-Élysées, c'est super. Quoi.
Ton meilleur pote te remercie. Oui, mais Florian. Ouais,
c'est toujours ton pote ou...
Oui, parce que c'était mon prénom.
Bouge un petit peu le câble, je pense qu'il y a un faux contact.
Allô, allô. Ouais, oui. Voilà.
Non, parce que c'était mon prénom, juste pendant des années, à quelques rues de chez moi, il y a des adresses, enfin des amendes au nom d'Abel Ocar qui sont arrivées.
Bon, bah un jour le fisc te rattrapera, il retrouve toujours les filles. Non, vous fraudez, Pauline, Emma ?
Non, moi je suis honnête.
On flippe, on est honnête. On est honnête. On est honnête, on a de l'argent sur cours d'honneur dans Radio Sorbonne Université. Pas de soucis, les 90 balles, on est prêt. Allez, une rencontre improbable désormais sur cours d'honneur entre une mélodie digne de la Motown et une instrumentation aux accents baroques. Cette chanson, qui est devenue depuis un classique, porte la griffe incomparable de son héros de producteur, Phil Spector. Il fut le premier à concilier la pop la plus sucrée aux arrangements, dont la grandiloquence était jusqu'alors inouïe. C'est de Darlene, ça s'appelle Love Christmas Baby. Please. Toujours dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Vous venez d'écouter Darlene, Love Christmas, Baby Please. Mais maintenant, place à l'interview.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
On parle de la vie de la Sorbonne, de l'actualité des étudiants. Pauline, aujourd'hui, ton invité n'est pas encore un prof à la Sorbonne, mais c'est un ancien.
Oui, bonsoir Florian Jésoupré. Vous êtes directeur d'études chez l'agence Think Out et vous conseillez les chaînes de TV et de radio dans le choix de leurs programmes.
Bonsoir Pauline, bonjour à tous.
Alors, première question, est-ce que vous, par rapport à ce qu'on vient de dire par rapport au Pass Navigo, vous fraudez ou vous avez pu
frauder ? Tout à fait, mais complètement, j'assume. Depuis, de toute façon, j'ai jamais payé, depuis que je suis arrivé à Paris, à 20 ans, j'ai jamais payé la RATP et je ne vais pas commencer maintenant. Donc, j'assume complètement. Enfin, c'est peut-être dégueulasse, mais j'assume. Il faut éviter les stations avec des correspondances.
Ouais.
Il faut éviter le week-end, il faut plutôt payer son ticket. La semaine, normalement, ça va.
Un petit miroir avec toi aussi, où tu mets comme ça aux angles.
Les heures de pointe en long, vous n'avez aucun risque. Voilà. Mais il faut éviter le vendredi soir, le samedi, toute la journée, et le dimanche. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup pour ces.
Et surtout, évitez Parmentier tous les soirs. Voilà, c'est super important. Et Belleville aussi. Voilà. Okay. Évitez les stations où on sort le soir.
D'accord. Bon alors, c'est un peu plus sérieux, mais est-ce que vous pensez que les médias traditionnels vont disparaître au profit des nouveaux médias ?
C'est pas beaucoup plus sérieux, mais effectivement, c'est une bonne question. Non, les médias traditionnels ne vont pas disparaître au sens où ils vont être rayés de la carte, je pense pas. Les médias, c'est la phrase d'un... J'ai un trou parce que mes cours sont loin, mais rien ne se perd, tout se transforme.
Lavoisier,
merci. Voilà, il y a des gens qui ont des fiches. Oui, il a lu, hein, je l'ai vu.
J'ai des très bonnes assistantes, merci.
Et les médias disparaissent pas parce que on disait que la radio allait disparaître quand la télé est apparue, on disait que le cinéma allait disparaître quand la télé est apparue et la télé aurait dû tout bouffer. Non, les médias se transforment et effectivement peut-être que les gens vont arrêter de... On commençait déjà à arrêter majoritairement de regarder la télé en direct. Ils ont commencé à arrêter d'écouter la radio en direct aussi. Mais ils écoutent quand même toujours des gens qui leur parlent et qui leur racontent des histoires. Ils écoutent toujours, ils regardent toujours des formats qui leur racontent des histoires. Donc ça disparaîtra jamais. Après, effectivement, les écrans, les supports changent. Et la façon d'adresser ces supports, ces formats-là change. Mais en tout cas, les médias ne disparaissent pas.
Mais toi, en tant que professionnel des médias, à quel point est-ce que tu as vu ce changement arriver? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que là, en peu de temps, on est vraiment passé du tout au tout en quelques années?
Alors, je suis pas un professionnel des médias depuis très longtemps. Enfin, ça fait, ça va faire 6 ans que je travaille chez Thinkout. Mais en vrai, en 6 ans, j'ai quand même vu les choses évoluer très rapidement. Et il y a 6 ans, on parlait de Netflix comme un acteur émergent, alors qu'aujourd'hui, en fait, on le considère comme, c'est la base. Enfin, il y a pas de débat sur le fait qu'il est très puissant aujourd'hui. Les audiences télé sont mesurées en Angleterre en intégrant Netflix, et c'est la 3e chaîne du pays. Donc, c'est dire à quel point en fait ça compte.
Et comment justement on peut faire en sorte que les médias qu'on dit plutôt traditionnels peuvent concurrencer du coup Netflix et tout, enfin tous les nouveaux médias comme Twitch par exemple.
Je pense que c'est à la fois une question de la façon dont ils s'adressent au public. De manière un peu technique, c'est-à-dire que s'ils sont pas présents sur les réseaux sociaux, s'ils sont pas présents sur les plateformes, etc. Effectivement, là pour le coup, tout leur format, tout leur contenu vont se perdre. Ça c'est clair. Il faut être là, il faut être présent dans l'environnement digital des gens. Et donc il faut être là sur les plateformes, il faut être là sur les que ce soit ces plateformes à soi, mais aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. pour exister et pour que les gens vous aient à l'esprit. C'est super important. Et puis après, il y a une autre façon d'exister par rapport au public, et notamment par rapport au public jeune, c'est vraiment dans la relation que tu as avec ce public, et c'est effectivement comment tu t'adresses aux gens, tout simplement. C'est-à-dire que on est sur des médias qui sont dans un schéma d'adresse du contenu qui est assez vertical, où en fait, on sait tout et on vous apprend des choses, on produit des choses, et puis vous les réceptionnez en direct ou sur nos plateformes à nous, et puis voilà, il n'y a pas il y a ni horizontalité ni authenticité ni proximité avec ces médias-là, alors que on le voit bien sur Twitch, ou on le voit bien sur YouTube, on le voit bien ailleurs. C'est-à-dire que les nouveaux médias, ou en tout cas les gens qui, parce que média ça veut rien dire, enfin on est des médias, vous êtes un média, tu es un média, je suis un média, Michou est un média, France 2 est un média, enfin tout le monde est un média. Il n'y a pas de, le digital a vraiment rebalayé toutes les cartes, et donc l'idée c'est que dans la relation que tu as avec ton audience, ton public, tu dois vraiment te mettre dans un état d'esprit qui est horizontal, qui est du partage, de la co-construction, parce qu'en fait c'est le nouveau paradigme dans lequel les médias doivent exister aujourd'hui. Et effectivement, c'est pour ça que pêchent les médias traditionnels comme BFM TV, comme France 2, comme TF1 aujourd'hui, c'est parce que justement ils sont trop dans cette relation qui est encore trop verticale et complètement asymétrique avec le public, alors qu'en fait c'est plus du tout l'environnement dans lequel les gens vivent aujourd'hui ou ont envie de vivre aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, parce que ça, du coup, ça me faisait penser Twitch avec la The Event où j'ai fait Explorer, qui sont vraiment fédérateurs, alors que moi personnellement je parle pas beaucoup de ce que je regarde à la télé ou à la radio avec d'autres amis à moi ou avec d'autres gens, quoi. Mais est-ce du coup dans leur contenu il faut aussi que ce soit à la télé, comment faire pour que ce soit moins vertical, par exemple plus horizontal avec les téléspectateurs
C'est très compliqué pour eux de sortir de ce schéma là parce que effectivement, et puis je réponds juste après, mais ce que tu dis est très intéressant parce que ça rebondit sur ta première question. Tu vois bien que la façon de médiatiser les choses ne change pas. Le Twitch, en fait, c'est du direct, c'est l'essence de la télé même. C'est-à-dire qu'on fait un Grand Prix de Formule 1, de Formule 3 en l'occurrence, au Mans, fondamentalement, c'est pas différent qu'un Grand Prix de Formule 1 sur Canal le dimanche. Le Z-Event, c'est pas super différent d'un Téléthon. Enfin, tu vois, c'est vraiment fondamentalement, c'est pas différent. Twitch n'a pas cassé la télé, c'est juste la même façon de faire les choses, mais c'est pas la même façon de raconter les choses, et c'est pas le même lien qu'on a avec le public. Et tu le dis justement, comment on peut réchauffer et se rapprocher du public pour justement construire cette relation très forte que les gens ont aujourd'hui avec des influenceurs, des youtubeurs, des streamers, etc. Bah c'est vraiment en descendant de son piédestal. Il y a eu Hugo Décrypt quand il a fait plusieurs fois des conférences de rédaction ouvertes à ses followers, où en fait tu pouvais suivre comment ils fabriquaient leurs sujets, comment ils décidaient de quel sujet ils allaient mettre en avant, etc. ou pas. Et justement, en ouvrant les portes, en te mettant au niveau du viewer, du téléspectateur, bah là quelque part tu crées une sorte de chose. Par exemple, il y a je crois que c'est Washington Post ou New York Times qui avait vraiment mis en scène le travail de ce journaliste à travers des blogs, à travers des vidéos où en fait tu voyais comment il travaillait, il réagissait, il répondait aux lecteurs qui leur demandaient voilà, pourquoi ils faisaient tel choix de sujet, pourquoi ils allaient à tel endroit, etc. Et c'est vraiment en cassant l'espèce de barrière entre les gens qui diffusent et qui savent et qui pensent qu'ils pensent mieux que les gens et entre le public, que tu réussis à fabriquer de la relation, de la proximité et donc de l'attachement, de l'adhésion à ton programme, à ton produit.
Mais on a quand même l'impression d'arriver un peu en retard, parce que les médias ont beau faire de plus en plus preuve de transparence dans leur travail, pour autant les esprits conspiration et les velléités de dissonance vis-à-vis des médias traditionnels est de plus en plus forte.
C'est vrai, mais en fait on arrive tard, mais vous êtes en retard. Enfin, je parle aux médias traditionnels, ils sont en retard, enfin ils sont carrément en retard. Il y a effectivement, mais ça c'est propre à toute la société, le fait qu'on remette en cause les autorités de manière globale aujourd'hui, on remet en cause les autorités politiques, on remet en cause les autorités étatiques, scientifiques après le Covid, et les médias du coup, pourquoi ils échapperaient à cette espèce de remise en cause justement des pouvoirs? Donc du coup ils sont pris dans ce bain là, ils ont pas suffisamment à un moment donné pris ce pli là de se dire on va essayer de se rapprocher du public parce que justement on va être jeté avec l'eau du bain. Là en ce moment ils sont jetés avec l'eau du bain, j'ai envie de dire c'est un peu bien fait pour eux, je dis ça parce que ça m'énerve, mais c'est un peu bien fait pour eux parce qu'ils n'ont pas suffisamment pris confiance assez tôt du fait que justement parce qu'il y avait de la défiance envers les politiques, les scientifiques, toutes les autorités, etc., les administrations et compagnie, ils ont pensé qu'ils allaient être sauvés parce que eux-mêmes avaient un peu le feu dans la main, mais en fait non, c'est pas du tout ça. Donc ils sont jetés avec les autres pour se rattraper. Il faut évidemment se rapprocher des publics, il n'y a pas d'autre choix.
D'accord, merci beaucoup, mais en tout cas juste mot de la fin, que représente la Sorbonne pour vous, même si vous n'y êtes plus?
La Sorbonne ça représente beaucoup parce que moi j'ai passé je pense que après j'ai fait le CELSA, mais j'ai passé bien 5 ans voire 6 ans à la Sorbonne. 5 ans de licence parce que j'étais très lent et parce que je buvais beaucoup de pintes, et du coup après j'ai fait le CELSA, mais en fait du coup même en faisant le CELSA je suis resté à la Sorbonne puisque c'est la même fac, et donc du coup ça représente beaucoup de choses, vraiment j'ai que 30 ans, mais ça représente une grande partie de ma vie, finalement ça représente pas moins de 10 ans, donc c'est énorme.
Merci beaucoup du coup d'être venu pour répondre à nos questions sur Cours d'honneur.
Merci à vous.
Merci Florian Jésus-Pré. Vous écoutez Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris, Cours d'honneur. Il est 20h28. Place maintenant au reportage. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Le lundi 12 décembre dernier, c'était tout juste le début du mois, mais des étudiants ont fait une très longue file d'attente pour aller récupérer des colis alimentaires. Ils étaient distribués par l'association Linky sur la rive gauche de Paris, et c'est notre chroniqueuse reporter tout terrain Rosalia qui est allée à leur rencontre. C'était dans le 13e arrondissement de Paris.
La distribution alimentaire commence à 19h. Mais à 18h, ils sont déjà une cinquantaine d'étudiants à faire la queue le long des bâtiments gris du campus Grand Moulin de l'université Paris-Cité. Venus seuls ou en bande, ils se sont équipés chaudement pour patienter dans le froid glacial du mois de décembre.
Je peux dire, ici j'ai 3 couches, ici j'ai 2 couches, et ici j'ai ma tête aussi 2 couches. Une capuche, oui, c'est une capuche spéciale. Il protège ma gorge, et cette chose-là, j'oublie. Un bonnet, oui, merci.
Emmitouflée sous toutes ces couches de vêtements, c'est Sonia, 22 ans. Elle est étudiante en master d'architecture et là, elle garde la place pour ses amis qui devraient bientôt arriver.
Je viens de Russie et je suis étudiante étrangère ici. mon budget pour toutes les choses, ce sont 400 euros.
Sonia vient récupérer des paniers alimentaires auprès de l'association Linky depuis le mois de mai 2022. Avec l'inflation, elle a vu la queue s'allonger au fil des mois, ce qui la pousse à arriver de plus en plus tôt.
Maintenant, j'ai arrivé à 6 heures parce que j'étais à l'école. Et oui, mais chaque semaine, j'arrive à 6h20, 6h30 parce que maintenant, la queue, il devient trop grande très vite.
Tandis que l'heure du début de la distribution approche, une ambiance conviviale se crée pour rendre l'attente moins difficile alors qu'il fait déjà nuit noire.
Merci à toi. Tu en veux aussi ? Avec ou sans sucre ?
Sans sucre.
Sans sucre.
Ah non.
Et les étudiants et étudiantes, vous êtes là ou pas ? Wouh ! 5K, il y a mort. L'idée là avec le centre système, c'est aussi de réchauffer les cœurs.
L'association Linky récupère les invendus de supermarchés et les redistribue gratuitement à des étudiants précaires. Chaque semaine, ils sont environ 450 à en bénéficier.
Bonsoir.
Dans le local de la distribution, règne une ambiance de fête. Lampions colorés, lumière chaude et musique à fond. À la sortie, un groupe d'amis indiens et nigériens s'échange des aliments. Celui qui est végétarien donne sa viande et en échange, il reçoit un tiramisu.
Certaines personnes sont végétariennes ou véganes, alors elles ne peuvent pas manger de tout.
À leurs pieds, Amwe, étudiant en data science, referme une vieille valise pleine de nourriture, complètement surexcité à la vue de toutes ces victuailles.
My name is Amwe. I'm 32.
Je m'appelle Amwe, j'ai 32 ans. Je suis venu récupérer de la nourriture pour mes colocataires et moi. C'est pour tout le mois, cette valise. Je l'ai récupérée dans une poubelle. Je l'utilise pour transporter les courses de tous mes amis et de mes colocataires. Alors à l'intérieur de la valise, il y a du chocolat, du café, des fruits. Est-ce que je vous les montre ? Et le meilleur dans tout ça, c'est le tiramisu. J'adore le tiramisu.
I really like the tiramisu.
Pour l'étudiant qui se couchait auparavant le ventre à moitié vide, ces distributions sont une véritable bénédiction.
En un mot, tout ça, ça me sauve. C'est un don de Dieu. Je n'arrive toujours pas à y croire. Avant de découvrir les distributions Linky, j'avais encore faim lorsque je me couchais. Mais maintenant, grâce à ça, je me sens beaucoup mieux et je peux me concentrer pleinement sur mes études. Je suis extrêmement reconnaissant envers Linky d'organiser ce genre de choses.
Linky organise ses distributions alimentaires pour les étudiants en situation de précarité à Paris et en Seine-Saint-Denis les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis. Vous pouvez retrouver tous les détails sur leur site internet si vous souhaitez bénéficier de l'aide de l'association ou devenir bénévole.
Rosalia avec l'association Linky LINK2E. Aucune référence au Père Noël ni au cadeau sous le sapin dans les paroles de la chanson qui vient, qui est pleine d'amertume. Il est question d'une carte porteuse de mauvaises nouvelles reçues pour Noël. Tom Waits et sa voix rongée par la nicotine et le bourbon nous rappellent que les malheurs font peu de cas du calendrier, que hélas, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Même le 25 décembre, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, c'est de Tom Waits et ça date de 1978.
Baby,
Says that rhythm up like it was on song. Gave me a ring that was worn by his mother. And it takes me out dancing every Saturday night. Hey Charlie, I think about you every time I pass the filling station.
Tom Waits, Christmas Cards from a Hooker in Minneapolis. Vous l'avez entendu dans Cours d'honneur, on est épisode spécial Noël. Mais Noël alternatif, il est 20h37, c'est l'heure de la chronique des brouilles.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, top table!
€2,30, vous imaginez 2,30€ le prix d'une bonne pâtisserie chez le boulanger du coin, non? C'est le prix d'un abonnement Vélib mensuel pour les jeunes de moins de 27 ans. C'est aujourd'hui dans la chronique des brouilles. Tibor, tu t'intéresses à l'offre Vélib?
Les Vélib, je vous le rappelle, ce sont ces vélos verts et bleus disponibles en libre service dans les rues parisiennes. Il y a tout intérêt à les utiliser, c'est pas cher, c'est rapide, c'est écologique. C'est pas cher, il suffit de payer 2,30€ par mois pour profiter du tarif V plus jeune qui permet d'utiliser sans frais les vélos mécaniques, les verts, pendant une demi-heure. Au-delà de celle-ci, 1€ est débité toutes les demi-heures supplémentaires écoulées. Puisqu'on est des étudiants économes, je vous donne une petite astuce. Si vous voulez utiliser le Vélib durant plus d'une demi-heure, je vous recommande de déposer le Vélib à une borne Vélib avant que les 30 minutes ne s'écoulent et de prendre un autre Vélib, ce qui remet le compteur à zéro. Ainsi, aucun euro supplémentaire n'est débité et il est possible de répéter ce procédé de manière illimitée. Il existe aussi un tarif V+ solidaire auquel peuvent souscrire boursiers, jeunes en insertion et bénéficiaires de la gratuité transport pour la modique somme de 1,55€. Et même les prix de l'offre de Vélib électrique Vmax restent très corrects. Croyez-moi, j'ai fait le calcul, les prix de l'offre Vélib sont imbattables en comparaison aux autres offres de deux roues en libre service disponibles sur le marché parisien. Bon, il y a quand même une chose qui m'énerve moi. Parfois j'arrive à l'université à Vélib et les stations à proximité sont toutes pleines. Impossible de déposer mon vélo. Alors je pédale inutilement, je tourne en rond et mon compteur tourne, lui aussi prêt à dépasser les 30 minutes. Donc étudiants, s'il vous plaît, permettez-vous de prendre plus régulièrement le Vélib, en particulier près de la Sorbonne. Non mais sérieux, cette station-là, celle qui est juste en face de la Sorbonne, on en parle, elle est vachement ambivalente. Elle est à la fois très utile pour ceux qui partent de la fac, car il y a toujours plein de vélos, et complètement inutile pour ceux qui y arrivent, comme dans mon cas. Cette station schizoïde, par son caractère atypique, me rappelle une autre station située rue Lamarck, près du métro Guy-Mocquet, vers chez moi. Plusieurs fois que j'y suis passé, et on ne pouvait ni déposer, ni prendre de vélo, rien ne fonctionnait. Entre trop de vélos et pas assez, entre rempli et vide, peut-être faut-il chercher d'autres critères pour juger. Près de chez moi, la station située rue Étienne Jodel, proche du métro Lafourche, me convient très bien. Tout simplement parce que j'aime l'esthétique de cette rue pavée escarpée, bordée de belles façades en pierre, rue qui est si caractéristique du charme montmartrois auquel elle permet d'accéder. Enfin, je me permets de vous rappeler 2-3 choses. À Vélib, gare à la vitesse car aucun casque n'est fourni. Pour ne pas être désagréablement surpris, il est utile de faire une petite vérification générale avant de prendre le Vélib. Vérifier les freins, les chambres à air, le pédalier et la selle. D'ailleurs, quand celle-ci est retournée à 180 degrés, c'est souvent le signe que le vélo a un souci. Si un Vélib est inutilisable, vous aussi retournez la selle pour informer les autres usagers de Vélib. Mais avant, il faut être assuré qu'il y ait des vélos. Pour éviter de vous retrouver une station vide, pensez au préalable à jeter un coup d'œil sur l'application Vélib qui indique le nombre de vélos présents à chaque station. Enfin, il est possible de bloquer son Vélib avec un antivol interne pour faire des pauses durant le trajet. Oui, je vous invite à aller sur le site internet de Vélib Métropole pour apprendre à faire cela. Avec toutes les informations que j'ai données, vous êtes prêt à utiliser pleinement les potentialités de l'offre Vélib. Renoncez une fois par mois à la dégustation de votre pâtisserie préférée et vous pourrez rouler librement à vélo dans Paris.
Merci Tibor. Effectivement, j'ai vu que ça hochait la tête autour de la table, puisque ça nous rappelle des bons souvenirs. Moi, c'est pour le casque, hein. Je me suis viandé il y a un an et j'ai eu 3 points à l'arcade sourcilière parce que j'ai bouffé le bitume. Florian, peut-être ton top 3 des pires stations de Vélib de Paris.
Enfin, Thomas, tu t'es heurté à l'arcade sourcilière. C'était pas à cause du Vélib, c'était à cause de ton taux d'alcoolémie.
Nonobstant le fait que j'avais bu quelques bières supplémentaires,
coup, c'est quand même un peu abusé.
Mais le Vélib ne comportait pas de casque, tu vois.
Plus.
Non, mais il y avait quand même un nid de poule. Ouais. Il y avait un nid de poule, je l'ai pris.
C'est vrai que la chaussée est particulièrement. C'est vrai qu'il faut faire gaffe en Vélib, parce que c'est vrai qu'effectivement, les chaussées de Paris sont particulièrement abîmées.
Ouais.
Donc, faut faire très attention.
Faut faire gaffe. Et puis, on dit pas de mal d'Anne Hidalgo, puisque elle participe aux subventions de Radio Sorbonne Université.
Autant pour moi.
On remercie la mairie de Paris.
Je retire tout ce que j'ai dit. On remercie la mairie de Paris et son endettement record pour le financement de cette émission. Mais par contre, sur les astuces de Vélib, effectivement, il faut pas habiter dans un arrondissement avec des gros chiffres. Genre 18, 19, 20, on n'a jamais de Vélib. En fait, on n'en a pas quand on part le matin. On en a pas quand on veut partir le soir de chez nous. Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier.
C'est un concept.
C'est un concept. Et sinon, d'autres astuces Vélib, Tibor a très bien dit ce qu'il fallait faire. Hein. Moi, j'ai une astuce, quand on veut vérifier le pédalier, il faut soulever le Vélib pour que le truc tourne vraiment dans le vide et pas sur la. Et que les roues soient pas collées au sol.
Voilà. Alors, moi, je donne un petit coup pour le faire faire un tour en arrière. Mais du coup, on vérifie pas si la chaîne marche bien, quoi.
Bah, c'est pour ça qu'il faut soulever le Vélib de la chaussée, ouais, c'est pas mal.
Les bons plans sur cours d'honneur dans Radio Campus Paris, Radio Sorbonne Université. Allez, maintenant c'est l'heure de la revue de presse.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord.
Allez, place à la revue de presse.
Les féministes.
We are pure, we are strong, we are brave, and we will fight.
Avec Clémence, à la une, Clémence, de ta revue de presse, c'est l'affaire Quatennens.
Le 13 décembre, le groupe parlementaire LFI NUPES a publié un communiqué au sujet d'Adrien Quatennens, qui leur a dit le temps équivalent aux 4 mois de prison avec sursis dont il a écopé. Mais son retour est envisagé après cette période, dès le 13 avril prochain, à condition, je cite, de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes. Nous ne parlons pas d'une simple suspension de permis et d'un stage de récupération de points, mais de violences conjugales. Quelques heures après ce communiqué, La Voix du Nord diffuse un très long entretien avec le député que je vous encourage vivement à lire, il est en accès libre. Lynchage médiatique inédit, acharnement disproportionné et pour qualifier le harcèlement, l'envoi de trop nombreux SMS amoureux, il souhaite rétablir son honneur car son épouse a choisi de faire justice elle-même. Tous les éléments de langage nauséabond du député ne sont pas sans rappeler ceux utilisés lors du procès Amber Heard et Johnny Depp. La femme est la vraie coupable, l'homme la véritable victime. La ligne de conduite de ce discours a été maintenue sur BFM TV où Adrien Quatennens s'est intervenu. L'entretien est aussi édifiant que celui donné à La Voix du Nord. Toujours dans les euphémismes, il décrit sa relation avec sa femme comme difficile et non pas violente et persiste à vouloir maintenir dans la vie politique et envisage même de retourner à l'Assemblée dès janvier.
Justement, on reste dans la politique avec cette visite de Gérald Darmanin à Nice, le ministre de l'Intérieur qui est venu et ça ne s'est pas fait sans heurts.
Pour 20 minutes, Élise Martin relate les événements du 9 décembre dernier. Les forces de l'ordre ont caché par des tissus noirs les slogans féministes du collectif Les Coloreuses, affichés dans une librairie en face de l'hôtel des polices que venait inaugurer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, accusé de viol. La co-gérante du lieu raconte « Les forces de l'ordre ont pris nos identités et quand on leur a demandé des explications et si c'était illégal, nous n'avons eu aucune réponse ». Pourtant, le rappellent les colleuses, les messages n'étaient ni insultants, ni diffamants, et positionnés dans un commerce privé.
La liberté d'expression, c'est justement cet argument fallacieux, utilisé seulement par ou pour les hommes.
Le 14 décembre à midi, le festival d'Angoulême vient d'annoncer l'annulation de l'exposition Bastien Vivès. Non pas car l'auteur représente des œuvres pédopornographiques, mais parce que des menaces physiques auraient été proférées à son encontre. Le festival se justifie ainsi. Il n'est dès lors pas possible pour l'événement d'envisager que sa programmation puisse faire peser de tel risque sur un auteur. Soyez donc rassurés, vous pouvez toujours prôner la pédophilie et l'inceste en toute quiétude, la direction vous soutiendra car cela relève de la liberté d'expression. Deux poids deux mesures, coller des slogans féministes c'est inacceptable, diffuser de la pédopornographie c'est de l'art.
la pédophilie et le détournement de mineurs ne sont pas des arguments suffisants pour ne plus donner de visibilité.
Preuve une fois de plus que la carrière des hommes est détruite après les accusations de violence. Pour CNews, être condamné à 1 an de prison avec sursis probatoire de 2 ans et d'une obligation de soins n'est pas suffisant pour déprogrammer Jean-Marc Morandini de l'antenne. Reconnu coupable pour corruption de mineurs, le Huffington Post nous apprend que l'animateur souhaite faire appel. Le vocabulaire est semblable à celui utilisé par Katniss, tel que lynchage médiatique. Le groupe détenu majoritairement par Vincent Bolloré n'a jamais dérobé son soutien, mais avait pourtant affirmé en 2016, en cas de condamnation, Jean-Marc Morandini et Itélé ont d'ores et déjà prévu qu'ils quitteraient le groupe sans indemnité, nous apprend Télérabin. Une prise de position qui semble avoir évolué depuis. Mais réjouissons-nous un peu. YouTube a enfin démonétisé les contenus de Norman et Léo Grasset, tous les deux accusés de viol. Si pour moi ce n'est pas suffisant et trop tardif, la moindre petite victoire est cependant à saisir. Continuons le combat, car il paiera.
Merci Clémence. My baby she told me she don't wanna
hold me and kiss my lips anymore. Hey, this is not a test, this is rock and roll.
Puisque ce mois-ci, Cour d'honneur est allé au cinéma et a vu Simone Veil. Bien sûr, le moment où la loi devance la morale. Simone Veil, le voyage du siècle de Olivier Dahan. Le biopic sur la femme politique, Simone Veil, c'est dans le titre. On en parle avec Abel.
Thomas, la semaine dernière, je suis donc allé voir Simone Veil, le voyage du siècle, réalisé par Olivier Dahan. Donc, c'est le biopic qui raconte la vie de Simone Veil à travers le XXe siècle.
L'espoir. Je félicite Madame Veil pour son élection. C'est dans l'Europe que je le place.
Et donc, vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce. Donc, le film, on va en parler tout de suite. Donc, le film se déroule en 3 temps. Il traite 3 temps de la vie de Simone Veil. Donc, sa vie de femme politique, hein, qu'on connaît tous, donc de ministre et de député. Sa vie moins connue. Du temps où elle fut inspectrice du pénitentiaire, ça je ne le savais pas, et le moment de sa déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces 3 moments dans la vie de Simone Veil se mélangent dans la narration du film, passant d'une scène au camp d'Auschwitz au ministère parisien de la Santé par exemple. Tout cela accompagné par la voix off d'Elisa Silberstein qui interprète Simone Veil, ministre ainsi que retraitée. Donc cela dit, parlons de ce film qui fut très attendu à sa sortie, et qui malheureusement est un petit peu décevant. Le problème de ce long métrage, c'est peut-être déjà son montage, qui mélange tous les moments de sa vie. On connaît Madame Veil pour sa loi sur la légalisation de l'avortement. Dans le film, ce moment est à peine traité, comme si c'était un élément mineur. De plus, les débats à l'Assemblée sur le texte de loi de Simone Veil, si connu de tous, même moi qui n'étais pas né, je les connais, sont reconstitués. Mais mal joué, mal interprété et encore une fois, à peine traité, comme si ce genre de moment n'était pas vraiment important pour la vie de Simone Veil. Bien qu'en tant que spectateur, on s'attend à voir au moins un film qui nous fait vivre ce genre de moment si important pour le droit des femmes. On est vite déçu quand au bout de 10 minutes de film, on passe déjà à un autre sujet.
Il faut rester ensemble, rien ne doit nous séparer. Là-bas, Simone, on est revenu.
Donc encore un extrait de la bande-annonce du film. On comprend vite que le film veut plus se porter sur la vie de la famille de Simone Veil sous l'occupation nazie. Donc j'aimerais vous parler un peu du moment de la déportation de Simone Veil et comment le film le traite. C'est sûrement le moment le plus touchant du film. On y voit la réalité crue et sans filtre des camps de concentration pour femmes. L'actrice Rebecca Marder, qui joue Simone Veil jeune, il joue très bien et réussit presque à nous remettre dans le film. C'est peut-être le moment émouvant du film, montrant Simone Veil, sa sœur et leur mère se battant pour survivre dans l'enfer des camps. Mais les changements incessants de chronologie dans la narration sortent le spectateur du film et on n'arrive plus à s'attacher au personnage de Simone Veil et à son combat.
Et donc Abel, en conclusion, tu en penses quoi de ce film avec du recul ?
Le souci de ce genre de film avant même d'exister, c'est qu'il traite d'un sujet déjà connu. Montré en livre, en film, en documentaire, en exposition. Donc tout l'enjeu, c'est de se démarquer, proposer du nouveau, du jamais vu. On comprend vite que dans ce film, on veut plus se porter sur la vie des camps et l'histoire de la famille Veil pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, le réalisateur fait le choix aussi de mettre en scène d'autres choses, d'autres moments de la vie de Simone Veil, qui sont trop mal mis en scène, avec une direction des acteurs mauvaise, ce qui contraste trop et gâche la qualité des scènes dans les camps, le seul moment où le film arrive à nous intéresser. Malgré tout, évidemment, ce genre d'œuvres doivent exister. Dans une période de recul des droits des femmes, surtout sur l'accès à l'avortement, regardons Outre-Atlantique, il est important de rappeler que ce combat est perpétuel et que ces droits peuvent malheureusement disparaître bien trop vite. Si je me prends un petit peu au sérieux, je donnerai une note comme sur Allociné de 2,5 sur 5.
2,5 sur 5, c'est tout de même la moitié pour le biopic sur Simone Veil. C'est généreux.
Et si on peut dire un dernier mot.
Bien sûr.
On parlait juste avant des fois où les gens font des choses avant que la loi s'applique. Je tiens quand même à dire qu'avant la légalisation de l'avortement, des milliers de femmes se sont fait avorter illégalement, entre guillemets, en sont mortes ou en sont tombées malades. Donc il faut des fois faire des choses avant que la loi puisse le permettre.
Et bim ! Emma ?
Je voulais juste dire qu'en ce moment au cinéma, il y a le film Annie Colère qui passe sur... je ne me rappelle plus les noms. Sur le MLAC qui organisait des avortements alors que c'était interdit en France. Et c'est très intéressant, franchement, je vous le conseille.
Avec Laure Calamy, on vous conseille sur Cours d'honneur les films qui sont en ce moment à l'affiche. Allez, une fois n'est pas coutume, Santa Claus Goes Straight to the Ghetto, une reprise d'une chanson de James Brown tirée de son album Funky Christmas. Et dans son incommensurable bonté, le Père Noël n'oublie pas de couvrir de cadeaux nos amis les gangsters. Snoop Dogg, lui, en sait gré et lui dédie un titre bien groovy dans le pur style de la West Coast. Is that the black Santa Claus? I want a Super Nintendo. Sega Genesis.
It's 12:30 a.m. Christmas Eve. I'm out with the gangsters and thieves. Celebrated, posted up with eggnog, hand it up in my cup. Put Rudolph and Moses, Lil Bang, banging and coasting down the block. But be careful for the heart because it's posted. Some say to this day that Christmas ain't nothing but another day. But out of respect, I gotta give the Lord his day. Tell me, where do the homeless and bums got to sleep? Where do the hungry and the needy greedies got to eat? Life is so crucial and cold. That's for the children in this world. They hopes and dreams can't afford. The young and old churches and spiritual dreams. Seasonal things heard throughout the ghetto reaches gangsters and dope fiends. Cause those who ain't able to get it, now can finally get it. Cause the ghetto Santa Claus sprinkled the hood. Now we born and live into a new year, a better thing. Celebrate with some champagne. Ha ha. Santa Claus. On the first day of Christmas, my homeboy gave to me a sack of that crazy glue and told me to smoke it up slowly. Now on the second day of Christmas, my homeboy gave to me a fifth of Hen Dog and told me to take my mind off that weed. Now by the third day of Christmas, my big homeboy gave to me whole lot of everything and it wasn't up a game to me. Back then you woke up to the sound. I saw mama kissing Santa, made you reminisce on the old fashioned Christmas days. Yes, miss a fat man jolly with joy down your chimney with toys for little girls and boys. Pumped up, I jumped up before the sun peeped in and hoped to catch a Santa Claus creeping down my hall. Run to the window, put my eyes to the sky just to see if I could see the sleigh that parlay and push the fat guy. I sigh, ain't no sign, but everything under this tree in my house is mine, my bike that, and this plastic nine to do fine till next year come. I try to see.
Cours d'honneur, saison 2, épisode 4. Vous êtes bien avec nous, on écoutait Santa Claus Goes Direct to the Straight Ghetto de Snoop Dogg, c'était en 1996. Allez, maintenant on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Bonsoir les petits enfants.
À Noël, entre la facture de chauffage, les cadeaux à préparer, le vin chaud sur le marché, le budget étudiant est encore plus serré. N'oublions pas que les partiels approchent aussi vite que les fêtes de fin d'année. Bref, plus le temps de se faire à manger. Alors tu l'as peut-être remarqué, toi l'étudiant qui nous écoute en sortant de cours, ce bon vieux Crous qui t'attend en face de la Sorbonne pourra bien te dépanner pour une somme dérisoire. Alors munis-toi de ta carte Easly et prépare-toi à un voyage exotique entre les frigos et les micro-ondes du Crous. C'est une carte postale signée Sixtine.
Voilà, devant le Crous, Champollion, juste en face de la Sorbonne. Comme d'habitude, on ne sait pas ce que nous réserve ce fabuleux Crous. Petit portique qui grince toujours autant. Franchement, regarde, ils ont mis les décorations de Noël. Petit effort quand même, incroyable. Le choix. Il n'y a pas beaucoup de choix.
Rosette beurre.
Dans la formule. Ah, il y a des fruits. Ouais.
Incroyable, bébé.
Let's go, on prend ça. Une pomme. Pomme ou clémentine, le choix est difficile. Les barquettes. Yes. À 2,80€.
Il y a tortue macédoine de légumes.
Un truc au poisson. En général, ils nous mettent jamais beaucoup de choix au niveau des barquettes. Bon, bah, on va partir sur ça. En fait, c'est des pâtes avec une sauce de poisson. Ouais. Ils nous indiquent aussi les allergènes. Sinon, en sandwich, on a quoi là? Emmental, jambon emmental, crudité thon. C'est pas la folie, hein.
Trop d'aigle.
Ça, c'est nous à chaque fois. À part sur un poisson amande, de toute façon, on n'avait pas le choix. Et sinon, on a aussi un choix avec des yaourts, fromage blanc, yaourt. Mais ça, ça rentre pas dans la formule. Et souvent, on fait exploser notre budget. Au lieu de payer 3,30€, on paye 5,50€.
Merci.
On va passer en caisse. On sort soit la carte, soit le compte Easly.
Merci.
Tu payes par carte?
Ouais.
C'est bien pratique. Les couverts, en fait, moi je prends pas les couverts en carton parce que je ramène mes propres couverts. Donc voilà, petit tip, ce que je vous conseille de faire. Ça évite d'utiliser des couverts pour rien. Par contre, je prends 4 tonnes de poivre qui n'a pas de goût, mais ça me donne une illusion de goût. Il y a le sel aussi. Et ensuite, la fameuse étape qui n'est pas des moindres, les micro-ondes. Ah, ils ont mis des petits posters là devant le sol, les plats achetés à la confrérie peuvent être réchauffés au micro-ondes. Donc là, il y a deux teams, ceux qui ouvrent leurs barquettes
et ceux qui la laissent fermer.
Et ceux qui la laissent fermer. On a tous l'impression que ça chauffe plus vite.
C'est la carte qui marche.
En fait, on s'improvise des connaissances de physicien comme ça, sans cri égard. 45 secondes x 3.
C'est ça.
Une de plus, le plastique fond. Ouais, une ça. De moins, c'est froid.
Je me suis déjà demandé si ça pouvait vraiment fondre en vrai. Est-ce que ça.
Je crois que ça fond.
Si tu as deux ou trois.
Là, je crois que t'es à deux, parce que moi aussi. On se perd dans les comptages de micro-ondes. Ça brûle. C'est chaud, on se crame les doigts. Installons-nous, mangeons, sustentons-nous. Si tu veux, on va se mettre sur les fauteuils là-bas. Là, on n'a pas trop l'embarras du choix pour aller s'asseoir. Là, il y a 4 tapis qui se battent en duel. Ça m'a l'air d'être délicieux. Bon, comme d'habitude, on va se remplir la panse tous. Et encore une fois, belle expérience. Tentez-la, mais pas trop non plus. Parce que c'est pas non plus si fou que ça, quoi.
Merci à Sixtine qui nous a fait découvrir les joies, les plaisirs du Crous Champollion, la cafette qui se trouve juste en face de la Sorbonne dans la carte postale. Et vous êtes toujours dans Cours d'honneur tout de suite, c'est le pavé de culture.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Oui, parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Le pavé de culture, les savoirs inutiles, donc complètement indispensables. Chaque mois, on vous raconte une anecdote méconnue de l'histoire de la Sorbonne. Avez-vous déjà entendu parler des pionnières de la Sorbonne, les premières femmes à y avoir étudié? Emma est partie à leur rencontre.
Vous connaissez les amphis de la Sorbonne, Michelet, Cauchy, Richelieu, Bachelard, Descartes, Turgot et j'en passe. Et je me demande, où sont les femmes? L'histoire de la Sorbonne s'est-elle faite sans elles, sans nous? Pendant longtemps, oui, mais aujourd'hui, si 58% des personnes inscrites dans l'enseignement supérieur sont des étudiantes, il a bien dû se passer quelque chose entre 1257, soit la création de la Sorbonne, et aujourd'hui. Pour vous, j'ai mené l'enquête et je suis partie à la recherche des premières étudiantes de la Sorbonne. Julie-Victoire Daubier est la première bachelière de France. Elle est reçue au baccalauréat à Lyon en 1861, alors qu'elle a 37 ans. Elle aurait en effet, pendant 10 ans, demandé à passer cet examen, mais l'autorisation lui était toujours refusée sous prétexte que les femmes n'ont pas besoin de ça. Déjà, il faut savoir qu'en cette fin de 19e siècle, l'instruction est réservée aux hommes. En ça, Victoire Daubier devient une pionnière. Elle ouvre la voie des études aux femmes.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Et puis sachez qu'entrer à l'université en cette fin de 19e siècle, c'était vraiment le parcours de la combattante. Il en fallait du courage pour affronter la misogynie et le sexisme normalisé à l'université, d'autant plus à la Sorbonne. Et oui, pour Victoire Daubier, les épreuves ne sont pas finies. Alors que les universités de province accueillent déjà des femmes en 1866, l'université de Paris, la Sorbonne donc, ne le fait pas et Victoire Daubier condamne cette situation. Si Emma Chenu devient la première femme à s'inscrire à l'université des sciences de Paris en 1867, elle sera aussi la première diplômée, il faudra attendre 1861 pour la fac de lettres, 1884 pour la fac de droit, sans compter qu'en 1872, elles ne peuvent toujours pas assister aux cours. À l'époque, la Sorbonne, c'est un peu le temple de la misogynie. En janvier 1893, les étudiantes manifestent parce que de plus en plus de femmes assistent aux cours à la Sorbonne. Pour le simple fait d'être présentes, elles sont brûlées en effigie, reçoivent des œufs pourris ou sont accueillies par des chansons obscènes. Finalement, on leur réserve des places spéciales dans l'amphi pour éviter les problèmes. Elles sont même parfois accompagnées de leur mère ou de leur mari, garant de leurs bonnes mœurs. C'est lunaire. Si leur présence en cours gêne, sachez aussi qu'en 1890, les étudiantes inscrites à l'université de Paris représentent 2,5% des effectifs. Ce sera 28% en 1935. Au départ, beaucoup sont des étudiantes étrangères, comme une certaine Marie Curie, qui deviendra en 1906 la première femme à enseigner à la Sorbonne.
Parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être.
De là vient sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement de libération des femmes et qui n'est pas sympathique. Et ça vient peut-être de là.
Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique.
Certaines étudiantes animent la vie étudiantine. En mars 1901 est créée l'Association des étudiantes de Paris, patronnée par Marguerite Durand, militante pour les droits des femmes et directrice du journal La Fronde. Le but de ces associations est de créer de la solidarité entre les étudiantes, tout en promouvant l'émancipation générale des femmes. Si on garde peu de traces d'elles après leur diplôme, ces femmes sont de véritables pionnières. Elles ont su s'immiscer, puis s'imposer dans une institution d'hommes. Je trouve ça regrettable qu'on ne parle pas plus d'elles aujourd'hui, mais doit-on s'en étonner ?
Emma, je ne connaissais pas cette chanson, c'est l'hymne des femmes, c'est ça? Je crois que je l'ai entendu pour la première fois justement dans le film dont tu parlais tout à l'heure. Non, le film Annie Colère. C'est ça,
c'est
Emma.
C'est le générique à la fin du film.
À la fin du film, c'est l'hymne des femmes et ouais. On peut me vilipender, je ne connaissais pas cette chanson-là. On arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Un petit mot quand même pour dire que la France a gagné la demi-finale de la Coupe du Monde de football au moment où on enregistre l'émission. Donc tout de même un petit kiff.
Kylian Président.
Ah, en tout cas, le président souhaite qu'on ramène.
Olivier, je t'aime.
Souhaite qu'on ramène la Coupe du Monde à la maison puisqu'il a posté ce petit tweet au moment où il diffusait cette émission le dimanche soir à 18h. Eh bien, nous savons si la France est oui ou non championne du monde. Eh bien, écoutez, j'espère que quoi qu'il arrive, vous ferez la fête ce soir, que vous passerez un bon dimanche et qu'on a réussi soit à rendre votre soirée meilleure en fêtant avec vous cette troisième étoile à notre maillot, ou au pire, eh bien, on vous aura consolé tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure avec cours d'honneur. Merci à Sixtine, à Pauline, à Tibor, à Rosalia, à Clara, à Emma et à Abel. Merci à notre invité Florian Jésus-Pré de nous avoir rejoint. Merci aussi au service culturel pour son soutien. Bien sûr, on se retrouve sur Instagram. On existe sur toutes les plateformes de podcast, dans ta fac aussi. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans un mois. D'ici là, restez curieux, soyez fous, n'oubliez pas, tout est possible. Allez, ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.